France Inter. .fr.
On va pouvoir commencer ? Allons-y !
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
Femme égyptienne.
Le comportement de la femme égyptienne est à la fois le maintien d'une tradition très ancienne et l'adhésion au monde moderne.
La première dame d'Égypte, Madame Sadat.
À nos femmes, je veux dire que, au lieu de perdre leur temps à bavarder, à suivre la mode ou à s'occuper de choses sans importance, elles devraient penser plus à leur éducation, qui est de nos jours une nécessité absolue.
Et oui, c'était en 1979. L'évolution du statut des femmes en Égypte est aussi disputée qu'elle est ancienne. Entamée dès le mouvement indépendantiste, il y a un siècle, elle ne suit pas du tout un parcours régulier, encore moins tranquille. Il s'avère impossible de la baliser par les moyens rassurants habituels, la progression de l'instruction, dont parlait Madame Sadat, la progression de l'emploi. C'est qu'en Égypte, lorsqu'il y a croissance, les écarts sociaux ne diminuent pas. Paradoxalement, ils se creusent. D'un côté, les femmes du peuple portent le poids écrasant de la misère et de l'autre, dans la bourgeoisie, les hommes imposent leur système, jouisseur et de plus en plus inspiré des modèles des pays du Golfe. Dans ces conditions, la loi est le chemin. Mais la rédaction de la loi est constamment l'objet de pressions et de contradictions. Les imams radicaux veulent infuser la charia, mesure après mesure, dans le code de la famille et leurs adversaires insistent. L'égalité ne se discute pas, quels que soient les préceptes religieux. De la place que les femmes parviendront à occuper demain dépendra le nom que l'histoire donnera au grand mouvement populaire égyptien, éclos depuis le 25 janvier 2011 et qui ressemble de plus en plus à une énigme. Ayam Suro, bonjour.
Bonjour Jean.
Égyptienne, le restant, bien qu'installée depuis 30 ans en France.
Quand on est égyptienne, on le reste.
Alors, vous êtes docteur en philosophie, on aurait aimé écouter vos contes, mais on ne va pas être dans le registre que vous utilisez quand vous parlez, que vous dites des histoires à vos trois enfants, à Yam Suro. Avant de revenir en amont, est-ce qu'on peut consacrer un moment à une journée de 2011, la journée du 8 mars, ou plus précisément du 9 mars 2011 ? C'était un rassemblement qui n'était pas axé sur les droits des femmes, comme celui de cette journée de France Inter. Les féministes d'Égypte avaient choisi d'autres mots d'ordre, par souci d'unité.
Oui, par souci d'unité, par calcul, par générosité aussi. Le jour de la femme, le 8 mars l'année dernière, avait été consacré à la démocratie. Et les femmes qui étaient conscientes d'avoir joué un rôle énorme dans la révolution de Tahrir, énorme, en amont, pendant, payant de leur vie, la révolution et la chute de Moubarak. Encore dans cette liesse de... Nous sommes en mars, donc le président est tombé le 11 février, dans la liesse de la révolution, se disent « Il ne faut pas, sitôt après cette réconciliation nationale, parce que c'est comme ça qu'elle a été vécue en Égypte, la révolution, c'est une réconciliation entre les hommes et les femmes, entre les riches et les pauvres, entre les chrétiens et les musulmans, et la retrouvaille avec quelque chose qui est l'Égypte ressentie dans chaque Égyptien. Et donc, pourquoi gâcher cette union sacrée en revendiquant pour nous seuls, nous les femmes, etc., nos droits ? C'est absurde, ça n'est pas bien. Nous allons simplement exprimer le désir des femmes égyptiennes de vivre dans une démocratie et donc, en fait, de donner notre soutien aux forces démocratiques d'Égypte.
Alors, réponse le jour où se déploie la manifestation, le 9 mars.
Réponse abominable. C'était le pire jour jusque-là. Les femmes sont sorties. Malheureusement, pas grand nombre. C'est ce qu'on dit aujourd'hui les militantes, c'est qu'aujourd'hui, elles tâcheront d'être plus nombreuses. Elles sont sorties pour manifester et elles ont été agressées par des autobus, par des voyous qui sortaient des autobus,
des cars entiers, donc
une chose organisée, non pas des gens qui marchaient dans la rue, des voyous qui sont venus en autocar et qui se sont attaqués à ces femmes, les insultant, criant les femmes dans la cuisine et d'autres abominations que nous ne disons pas sur France Inter, et qui les ont battues, humiliées, dévêtues, et maintenant en Europe nous avons vu ce que les gens sont capables de faire aux femmes dans la rue, donc je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. Mais a été une journée de cauchemar.
Elles n'ont pas toujours été protégées par la police ou les militaires.
Ce 9 mars 2011, lors d'une manifestation contre l'armée en place, une centaine de personnes sont arrêtées, dont une dizaine de jeunes filles. Les militaires vont les déshabiller, les torturer et leur faire subir un test de virginité. Ce jour-là, devant le tribunal du Caire, la foule scande un seul prénom, celui de Samira. Samira est la seule à avoir osé porter plainte.
Tu auras gain de cause, et Dieu est avec toi, sois forte.
Nous sommes fiers de toi, tous derrière cette fille, la seule et l'unique qui a dit non, et grâce à elle, ils n'oseront plus le refaire.
3 heures plus tard, le verdict tombe en la faveur de Samira.
Les femmes d'Égypte sont une ligne rouge à ne pas franchir. Je conseille à toutes les filles qui ont subi ça de porter plainte et de compter sur le soutien du peuple qui ne les lâchera pas.
À la réflexion, qu'est-ce qui s'est passé jusque dans le peuple ce jour-là? Un retour du refoulé?
Exactement, un retour du refoulé. Je crois que la révolution de Tahrir a révélé au monde et aussi aux Égyptiens eux-mêmes, qu'une Égypte éternelle n'était pas morte du tout. Qu'elle était vivace, qu'elle était là, qu'elle résisterait toujours à la nouveauté. Enfin, il y a une Égypte, un socle égyptien qui résiste et qui résistera toujours. Et il concerne les femmes profondément, puisque la femme égyptienne est considérée en Égypte comme une sœur. La femme égyptienne est encore ce qu'elle a été dans l'Égypte ancienne, la sœur amante, la sœur épouse. C'est celle qui peut devenir prêtresse, qui est prêtresse. C'est celle qui peut devenir reine. C'est celle que les chrétiens ont trouvée à Alexandrie, qui était mathématicienne, philosophe, théologienne, et qui aux yeux peut-être des premiers chrétiens, était une femme singulièrement dépravée. Cette femme égyptienne du peuple, c'est-à-dire le socle égyptien de la femme, est quelque chose de véritablement tabou. Si vous vous rendez en Égypte dans les quartiers populaires, vous seriez très surpris par la liberté de parole, par la promiscuité des garçons et des filles, par la simplicité sœurs-frères de leurs relations. C'est quelque chose que quiconque a visité l'Égypte aujourd'hui au XXIe siècle constatera. Il y a quelque chose de très proche, de très frères-sœurs dans les relations hommes-femmes en Égypte. Et ça, pour moi, c'est le secret de famille égyptien dont la femme est le verrou. C'est ça la ligne rouge.
Une manifestation un peu plus tard, filmée par votre frère Alam Wassef, qui montre que les femmes sont là. Elles sont là aussi dans l'économie. Alors l'Égypte, c'est peut-être 85 millions d'habitants, 52% de femmes. Alors les chiffres officiels, vous ne croyez pas les chiffres officiels, Ayam Suro, disent 18%, un peu plus, 18,5% de la population active.
Oui, 18%. Je crois que les chiffres officiels, 18,5% de la population active, formelle, officielle. Mais un pays comme l'Égypte ne compte pas les gens qui travaillent comme la France, par exemple. C'est-à-dire le peuple égyptien qui travaille n'est pas compté. C'est tous les gens qui travaillent dans le secteur informel, qui sont des petits commerçants, qui vendent leur citron dans la rue, qui lavent des voitures, qui sont des domestiques, qui ont des petites échoppes, qui font des petits travaux. Et ceux-là ne sont pas comptés dans vos 18,5%.
Bon. Alors je prends un autre compte. Si on enlevait les femmes, qu'est-ce qui resterait des budgets populaires chez les fellahs ou dans les villes?
Si vous enleviez les femmes, on ne peut pas poser la question comme ça. On peut dire, par exemple, que sur 100 ménages, 70 vivent grâce aux ressources financières des femmes. Est-ce que vous vous rendez compte de ce chiffre ? 70% vivent. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que seules les femmes travaillent. Ça veut dire que il arrive que seules les femmes travaillent dans un ménage. Et il arrive aussi que le salaire de l'homme ne suffise pas à sa famille. Et donc, il ne pourrait pas vivre sans la contribution économique de sa femme.
Alors, je ne sais pas si je me rends compte. Vous écrivez dans un article postérieur au 9 mars 2011 dans La Règle du Jeu. On peut toujours le trouver sur le site de cette revue, que la pauvreté égyptienne est inconcevable pour les Européens. Et vous prenez l'exemple de ce qui se passe dans les quartiers populaires des villes. Là, il va s'agir de 15 millions de personnes qui se trouvent prises en étau dans le même destin. 15 millions de femmes, dites-vous, vous les décrivez du matin au soir.
Oui. En fait, ce qui m'a le plus surpris dans la révolution égyptienne, c'était l'étonnement des Européens. Alors, il m'a semblé que les Européens, les Français notamment, qui cultivent une passion pour l'Égypte, comme on sait depuis longtemps, ont découvert avec consternation la misère égyptienne. Et la misère égyptienne, en effet, est cauchemardesque. La plupart, quand on parle du peuple égyptien, ou de la femme égyptienne, il faut imaginer une femme qui se lève à l'aurore, qui ne mange pas assez pour nourrir ses enfants, qui a plus d'enfants qu'il n'en faut,
dont les enfants... 3,3, c'est la moyenne.
Combien ?
3,3, la moyenne. 3,3. Pour l'ensemble du pays, d'accord. Pas dans les classes populaires.
D'accord, oui. Enfin, vous voyez quand même beaucoup, beaucoup d'enfants. Elle n'arrive pas à les nourrir, donc se nourrit pas elle-même. Elle travaille, elle ne peut pas les élever, justement, parce qu'elle travaille. Et donc, ils sont laissés à eux-mêmes, sous-nourris, pas mal nourris, sous-nourris. Ils s'endorment en classe parce qu'ils sont sous-nourris, donc ils ne peuvent pas continuer leurs études. Les petites filles tombent le plus vite hors de la scolarité, les petits garçons un peu plus tard, mais quand ils auront continué leur scolarité, que vont-ils faire ? Que vont-ils faire ? Ils vont simplement soit se vendre à la police comme voyous, justement, à la solde du gouvernement, vendre de la drogue, taquiner les filles dans la rue, juste ne rien faire de leur temps. Ils n'ont pas de travail, n'ont aucun espoir. Et voilà ce que voit une femme égyptienne. Elle voit ses filles se voiler forcément, puisqu'elles vont être taquinées par les garçons des autres quartiers. Donc elle se voile pour être tranquille dans les autobus. Et voilà. Et le seul espoir pour l'enfant de cette femme, c'est de quitter l'Égypte. Ce n'est pas un beau destin.
Les médias occidentaux, évidemment, sont plus attentifs à ce qui peut encourager notre vision, à ce qui est plus accessible. On va aussi parler des quelques femmes qui commencent à occuper des postes importants, l'accès aux postes de responsabilité politique. Nous sommes ici dans des reportages des dernières années de Moubarak en 2008-2010.
Komboa, un village agricole à 400 km au sud du Caire. Madame le maire a été nommée par le ministre de l'Intérieur, car en Égypte, c'est le ministère de l'Intérieur qui nomme les maires. Eve Abil, 53 ans, suit les traces de son père et de son grand-père.
Mon grand-père n'aurait jamais pu imaginer me voir là où je suis arrivée aujourd'hui. C'est pourquoi je suis fière de moi. Et je lui dis, grand-père, je suis une femme et je suis la maire du village.
Eve Abil est membre du PND, le parti de président Moubarak, depuis les années 90. Mais son parcours reste une exception. L'Égypte ne compte que 9 femmes députées sur 454.
Les Égyptiens élisent leurs 508 députés ce dimanche. Nouveauté cette année, des quotas réservent 64 sièges aux femmes. Mona Makram, chrétienne copte, professeure de sciences politiques, n'hésite pas à délivrer son message jusque dans les églises.
Vous devez nous trouver un travail. Tu viendras travailler avec moi une fois que je serai élue. Vous promettez ? Une promesse ? Si Dieu m'aide et si tu me donnes ta voix, oui. Le fait que ce soit une femme fait qu'elle va aider les filles et les femmes à trouver du travail et avoir un rôle dans la société. Pour nous défendre, une femme fera mieux qu'un homme.
Il s'agit des législatives de la fin de l'époque Moubarak, mais avec les dernières, la proportion n'a pas beaucoup changé.
La proportion a plutôt nettement diminué.
Oui. Et dans les postes importants, les autres ? On entendait cette candidate députée de 2010 dire qu'elle était professeure d'université. Il y a près de la moitié des enseignants du supérieur. Il y a la moitié des chercheurs.
La moitié des chercheurs, la moitié des enseignants, 54% des diplômés d'université sont des filles. Où vont-elles? Où sont-elles? C'est un gâchis colossal de potentiel. On ne dit pas qu'il n'y a pas de femmes instruites en Égypte, quoique l'illettrisme des filles soit à 42%. Mais on dit elles sont là, mais elles ne trouvent pas de travail, elles sont sous-payées et bientôt reléguées ailleurs.
Alors on va revenir dans la deuxième partie de l'émission. Nous allons parler maintenant des débats juridiques aux années 60-70, quand se sont constitués les grands débats qui durent aujourd'hui. C'est dans les années 60 qu'on entend ici Oum Kalsoum.
De l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
La femme égyptienne aujourd'hui avec Ayam Sureau. On a parlé à Ayam Sureau du socle historique, du socle social. Parlons un peu du statut juridique de la femme qui est assurée en principe depuis la constitution de 1952, encore que l'article 2 de cette constitution, qui par ailleurs garantit l'égalité, explique que les lois égyptiennes s'inspirent d'abord de la loi islamique.
Oui. C'est pourquoi, d'ailleurs, les femmes, l'année dernière, pensaient qu'il était plus habile de se battre sur le terrain de la démocratie, c'est-à-dire de la sécularisation du droit, point barre, et de ne pas entrer dans des disputes religieuses qui sont oiseuses par définition, puisque chacun croit ce qu'il croit. Donc c'est la sécularisation du droit, parce que l'article 2 de la Constitution dit que l'État, la religion de l'État est l'islam, et ce sont les lois islamiques qui sont la source d'inspiration, non pas une source, mais la source d'inspiration du droit. Alors tant que cela restera le cas, évidemment, ça laisse peu de champ à l'égalité des hommes et des femmes.
Si, à condition qu'elle demeure compatible avec les préceptes de la loi islamique.
C'est l'article 46, c'est-à-dire l'État garantit l'égalité des hommes et des femmes à condition que cela ne contredise pas les préceptes islamiques. Alors, c'est-à-dire ne garantit pas l'égalité des hommes et des femmes.
La Constitution n'a pas changé depuis 1952. Il y a toujours des imams radicaux qui cherchent à créer une Constitution radicalement islamique. Ce qui peut changer, c'est la codification, c'est-à-dire... Les mesures qui, inspirées par la loi islamique, peuvent entrer dans le code pénal. On ne va pas parler du code pénal, mais peuvent entrer aussi dans le code de la famille. Et c'est là qu'il faut qu'on parle quand même de l'opposition des tendances. Alors, il y a d'un côté les imams radicaux qui souhaitent que la charia infuse et progresse. Ils disent d'ailleurs qu'il y a des femmes qui les soutiennent.
Il y a énormément de femmes qui les soutiennent. Je crois que la moitié des membres du parti le plus important, les frères musulmans, qu'on appelle les frères musulmans, sont en réalité des sœurs musulmanes, puisque la moitié sont des femmes. Et ce sont des femmes de tout niveau d'instruction et de culture et sociale et économique, de tout niveau. Et c'est ce phénomène qu'il faut essayer de comprendre, sans le rejeter d'un bloc comme étant une diabolisation de l'avenir. Je pense que D'abord, il ne faut pas voir les choses comme une régression en Égypte, mais comme une nouveauté radicale, puisque l'Égypte n'a jamais appliqué la charia. Donc, si elle était un jour appliquée, ce ne serait pas une régression, ça serait une nouveauté catastrophique en Égypte. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut s'interroger, non pas avec bienveillance, mais avec équité, sur les motivations de femmes instruites, intelligentes, qui choisissent la voie de l'esclavage. Et ce qu'il faut donc comprendre ici en Europe, et notamment en France, c'est que la laïcité, qui pour vous en France et pour tous les Européens, est la chose désirable, elle est assimilée en Égypte, et dans la plupart de ces pays, mais moi je parle ici de la femme égyptienne, elle est assimilée au régime despotique et répressif. C'est-à-dire que les tests de virginité dont vous avez parlé, qui ont lieu dans les commissariats et les tortures, les assassinats et les meurtres commis par les militaires, ne le sont pas au nom de Dieu. Ils sont, eux, les représentatifs de la laïcité. Et donc, tant que la laïcité sera assimilée à cette répression, tant que l'élite actuelle de l'Égypte, incompétente, corrompue et soutenue par l'Occident laïque, le restera comme ça, alors la seule alternative possible à cette élite laïque, corrompue, dégénérée et incompétente surtout, sera Dieu. Moi, je comprends parfaitement ça. Il faut que l'Europe comprenne qu'elle est associée à la corruption de l'Ancien Régime.
Alors, cette bataille qui se livre sur deux dossiers du Code de la famille que nous allons aborder rapidement est hypothéquée par ce théâtre d'ombre politique. Deux dossiers, le mariage et le divorce d'abord. Bon, le mariage est généralement libre maintenant en Égypte.
Qu'est-ce que ça veut dire, le mariage est libre?
Je veux dire qu'on n'est pas obligé, on n'est pas obligé de se marier avec qui on ne veut pas.
Non, je crois qu'on a, vous savez, ça c'est un fantasme.
Vous voyez
Non. Mais en Égypte, bien sûr, j'imagine qu'il y a des jeunes filles qui sont données à marier contre leur gré. La question n'est vraiment pas là, la question est celle du divorce.
Alors le divorce, je vous propose qu'on prenne la date neutre de 1979, sa date était encore au pouvoir, et sa femme participait au combat sur l'assouplissement des règles traditionnelles du divorce.
Nous devons agir ici, comme je l'ai toujours dit aux femmes égyptiennes. Nous devons prouver que nous sommes capables de mériter ce que nous demandons. Un homme peut divorcer exactement quand il le désire, et naturellement, je suis très opposée à cela. Dans notre pays, nous avons besoin, à mon avis, c'est de nous améliorer, mais sans aller trop loin, comme dans certains pays très avancés. Il ne devrait pas être aussi facile de divorcer. Nous espérons obtenir ici des droits qui fassent que l'homme ne pourra plus divorcer à sa guise.
Et en effet, 1979, loi Jian, du prénom de Madame Sadat, un dispositif qui rend possible l'initiative du divorce plus facilement pour les femmes.
Oui. C'est-à-dire, d'abord, autrefois, avant cette loi, les hommes, en prononçant trois fois la parole « tu es répudié », répudiaient leur femme, n'est-ce pas? Et donc, depuis ce jour, ils doivent eux-mêmes, s'ils veulent répudier leur femme, se rendre au tribunal pour divorcer. Donc, ça, c'est quand même une grande nouveauté. On n'est pas répudié en trois mots, la première chose. Et puis, la femme elle-même peut divorcer. Alors, elle peut divorcer pour faute ou sans faute. Si elle divorce pour faute, ça va mettre des années. Elle n'en aura jamais ni les moyens ni l'argent. Donc, elle va divorcer sans faute. Et dans ce cas, elle perdra tous ses avantages financiers, tous ses intérêts financiers. Et je crois que la loi votée par Jehan et Sadat permettait aux femmes de garder leurs enfants. Ce qui était déjà énorme, parce que la femme, en divorçant, perdait ses intérêts financiers et la garde de ses enfants. C'est-à-dire qu'ils se retrouvaient à la rue sans rien.
Expliquez-moi, Yam Suro, il y a 50% de nos mariages qui aboutissent ici à des divorces, 30% en Égypte.
Oui.
Mais alors, il y a engorgement même des tribunaux où il y a très peu de femmes juives.
La question est, qu'est-ce qu'un mariage en Égypte? D'accord. Dans l'hypocrisie, si vous voulez, de la religion, fait que les hommes et les femmes se marient pour pouvoir coucher ensemble légalement.
La religion, ce n'est pas seulement la religion musulmane, parce qu'il n'est pas sûr que du côté des coptes, il y a des comportements radicalement différents.
Donc on se marie pour quelques heures et on divorce, pour quelques jours et on divorce, etc.
Deuxième dossier, la polygamie. Du côté d'Al-Azhar, la grande université religieuse du Caire, on disait dans les années 1970, seule la conscience du musulman, de l'homme musulman, limite la répudiation, seule la conscience du musulman limite la polygamie. Reportage des années 1980-86 précisément de la télévision française.
Pourquoi avez-vous trois femmes?
C'est le hasard et c'est mon destin. Dieu était très bon pour moi. Elles sont toutes les trois très gentilles les unes pour les autres. Dans la maison, chacune a sa fonction. Une le ménage, l'autre les enfants, la troisième les courses. Mon entourage m'envie. Certains de mes voisins ont une femme, parfois deux. Mais je suis le seul à en avoir trois. Mais vous savez, mon grand-père en avait sept.
Est-ce que vous n'aimeriez pas être la seule?
La seule chose qui compte pour moi, c'est le bonheur de mon mari.
Est-ce que vous l'aimez?
Trop. Il est notre frère, notre père, tout dans notre vie.
Qui fait l'amour avec vous?
Je dors seule. Quand j'ai besoin de quelqu'un, j'appelle son nom et elle arrive en courant.
Est-ce que vous aimeriez avoir une quatrième femme?
Oui, si j'en ai l'occasion et si l'une d'entre elles se lasse de moi.
Sur notre site, les références d'une série télé égyptienne qui a eu beaucoup de succès et dans le pays et dans la région du Golfe, El Hadj Matwali, je prononce très mal, Ayam Siro, sont les aventures d'un poussa heureux qui a quatre femmes et chacune des femmes permet un arc narratif, comme on dit à la télévision, une histoire singulière. Et ça fait rire ou ça sert de modèle?
Ça fait un peu rire. Je crois que la polygamie est un sujet comique. Parce que, c'est-à-dire que la figure dans l'imagination populaire, c'est justement l'homme absolument pris en sandwich entre deux femmes rusées qui s'arrangent entre elles pour le rendre dingue, etc. Et je pense que cette série jouait sur ce registre. En Égypte, la polygamie existe, elle devrait être abolie, mais elle existe. Elle n'est pas très répandue et elle n'est pas culturellement très ancrée. La polygamie existe, par exemple, chez les paysans lorsque la première femme n'a pas d'enfant, ne peut pas avoir d'enfant. Et par courtoisie, le paysan lui demande de choisir une deuxième. Et elle en choisit une pour lui. Ou alors des très riches commerçants, des parvenus, etc., ont comme signe de richesse ou de dépravation beaucoup de femmes.
Et la loi, la première femme a donné son consentement. Mais la loi interdit les pratiques d'excision, par exemple, si on veut dire un mot de cet autre dossier beaucoup plus généralisé. Oui. El-Azhar a fini en 2007 par condamner l'excision. L'Église copte condamne l'excision et néanmoins...
En présentant l'excision juste après la polygamie, nous donnons un peu l'impression que c'est deux caractéristiques musulmanes. Ça ne sont pas du tout. Si la polygamie est spécifiquement musulmane, l'excision, elle, est spécifiquement égyptienne. Ses origines sont extrêmement mystérieuses. Sa réalité est consternante. Aujourd'hui, là, à l'heure où je vous parle, 91% des femmes égyptiennes sont excisées. Ce nombre est heureusement en recul, puisqu'on sait par exemple que, vous savez, l'excision est pratiquée vers l'âge de 9-12 ans, puisqu'en réalité, elle n'est pas une chose religieuse, elle est quelque chose de magique, c'est une espèce de rite de puberté, peut-être d'origine africaine, nul ne sait. On l'appelle parfois pharaonique, on délire pas mal dessus. Elle est, je crois, assez magique, c'est une pensée magique, et elle n'est absolument pas ni chrétienne, ni musulmane, elle est égyptienne, elle est pratiquée par les deux religions. Mais je tiens à dire, elle est pratiquée par tous les Égyptiens.
On l'a compris tout à fait.
Une grande barbarie égyptienne.
Cette leçon, une des nombreuses de cette émission. À Ayam Siro, on retrouvera des programmes consacrés à l'appel Dignité, Égalité aux femmes arabes à partir de 17h sur France Inter.